Bonjour et bonsoir. Bienvenue à Sequoia 88.3. C'est l'émission Voix de fait, l'émission du collectif anarchiste.
L'atelier.
L'atelier. Il ne faut pas se tromper parce qu'on a changé de nom. Et puis, on a fait une refondation, tout ça. Alors maintenant, on est fiers d'avoir ce nouveau nom-là. Et puis, aujourd'hui, on va parler évidemment d'actualité, actualité libertaire. Évidemment, on va parler beaucoup de la grève étudiante. Comment est-ce qu'on pourrait passer à côté de ça? Et puis, Jenny va nous faire un bloc international aussi?
Oui, je vais vous parler en premier des syndicats algériens qui ont été arrêtés. Les arrestations se multiplient dans ce coin-là. D'incidents survenus lors d'une manifestation en Espagne. Et aussi, un plus gros dossier, c'est Anonymous qui ont attaqué dernièrement NaziLeaks, un site néo-nazi. Donc, on va parler de tout ça dans quelques minutes.
Et moi, je vais parler du mouvement des étudiants socialement responsables, mouvement entre guillemets, il faut le dire vite. On va peut-être parler un peu de, si vous avez écouté de l'émission, tout le monde en parle hier, que vous avez sûrement encore un rictus pogné aux lèvres tellement que c'était drôle. Sinon, on va parler de ce qui se passe au Saguenay, ça brasse pas mal au Saguenay dans le domaine étudiant. Et puis, on va faire une couverture médiatique générale de ce qui se passe dans le cours de la grève étudiante. Et sinon, on commence avec une pièce sélection de Jenny.
Ouais, on s'en va en musique avec un style musical qui n'a jamais été présenté à l'émission. C'est du metal symphonique, le groupe néerlandais Epica avec la chanson Cry for the Moon.
On va se croiser les doigts pour que quand je pèse sur play, ça marche. Et évidemment, ça ne marche pas. Fait qu'on va mettre notre pièce. On va mettre la pièce Canton des Goules. Et on vient tout de suite après.
C'est toujours aussi débile, quoi. Faut vraiment être con aux militaires pour donner des noms comme ça.
Con militaire, peut-être pas. C'est un jeu de mots, voix de fait. C'est l'émission du collectif anarchiste L'Atelier. Et donc, le mouvement des étudiants socialement responsables, qui est, peut-être que vous en avez entendu parler pour la première fois hier, à Tout le monde en parle, il y avait une illustre représentante de ce groupe-là qui est venue participer. Peut-être que je vais lire l'article là, de notre camarade Nicolas qui a écrit sur le blog à propos de ce mouvement-là. en disant que c'était une grossière manipulation libérale. Donc, jusqu'à un passé relativement récent, les membres des partis politiques sabotaient les mouvements étudiants en les noyautant. Eh bien, maintenant, avant, c'était surtout le PQ qui avait pris cette habitude-là au sein de la FEUC et de la FEC. Et aujourd'hui, les libéraux qui sont jeunes sont rendus tellement radicalisés que c'est impossible de se faire élire au sein de ces fédérations-là. Alors, maintenant, ils ont cherché comment faire, ils ont consulté leurs amis du Parti libéral, et qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont arrivés avec la splendide idée de fonder un mouvement, en guillemets, des étudiants socialement responsables. Et donc, il semble que plusieurs des dirigeants et des porte-parole de ce groupe-là soient des membres, des militants en vue de la commission jeunesse du PLQ.
Il y en a même un qui est royaliste.
Oui, il y en a un qui écrit... Comment est-ce qu'il s'appelle?
J'aime la reine.
Non, mais je veux dire, le gars, comment est-ce qu'il s'appelle déjà?
Je sais pas son nom, mais tu sais, il a écrit un texte qui s'est marqué « J'aime la reine ».
Il a écrit un texte, je pense que c'est sur un journal de McGill. Il a écrit un texte qui s'appelle « J'aime la reine », dans lequel un texte vraiment dithyrambique à propos de la reine, je pense que c'est un texte de 1000 mots ou plus, dans lequel il louange la reine d'Angleterre. C'est vraiment quelque chose. Ça vous donne un aperçu d'un peu de c'est quoi cette bande d'arrivistes du mouvement des étudiants socialement responsables. Et c'est ça, des gens qui sont très proches du Parti libéral du Québec, quand ils sont pas membres ou quand c'est pas leurs parents qui ont déjà été députés, comme Ariel Grenier, qui était à Tout le monde en parle hier, d'ailleurs, apparemment que ce serait pour ça que c'est elle qui est allée représenter ce mouvement-là, entre guillemets, parce qu'elle est pas membre du PLQ.
Elle était membre du
PLQ. Elle était membre, mais elle n'est pas membre. Jusqu'en septembre dernier.
Puis à savoir être la fille d'un gars, d'un donateur et d'un ex-candidat du PLQ. Donc,
exactement.
Surprise, surprise.
Donc, très près du PLQ, mais elle n'est pas membre. Quand même, elle n'est pas membre. C'est pour ça qu'elle s'est présentée. À Tout le monde en parle, parce que les autres, j'imagine, étaient trop peinturés PLQ. Et elle, bon, elle avait une certaine distance de quelques mois de pas membre du PLQ. Et donc, tout le monde s'est mis... quand même, hein, ça a pris du temps avant que les médias se mettent à soulever le fait qu'elle était proche du PLQ, parce que elle a commencé à apparaître dans les médias quand, quelques jours, elle disait qu'elle s'était fait menacer par des partisans de la grève. Et donc, là, les médias en parlent, elle se présente sur tous les plateaux de télé pour parler de ça. Et puis là, d'un coup, quelques jours plus tard, on se rend compte que, finalement, ce mouvement-là, c'est tous des gens qui sont dans le PLQ, finalement. Alors... C'est quand même, tu sais, c'est particulier. Quel genre de crédibilité cette personne-là a-t-elle, tu sais, si elle est membre du Parti libéral, ceux qui sont responsables de la hausse des frais de scolarité? En tout cas. Puis actuellement, le spin des étudiants réactionnaires se résume à peu près « so what? » Donc, pourquoi est-ce que vous attaquez pas les opinions de ces gens-là plutôt que le messager? Et le problème, c'est pas évidemment que certains de ces étudiants-là soient des libéraux. Mais c'est que le problème, c'est que c'est une grossière manipulation libérale. Le mouvement des étudiants socialement responsables, c'est piloté par le Parti libéral. Le problème, c'est pas qu'ils soient contre la grève. Donc, est-ce que on peut se poser la question, est-ce que des milliers de jeunes, puis là, encore là, faut le dire vite, des milliers de jeunes, est-ce que des milliers de jeunes auraient adhéré à cette organisation-là, même si ça aurait été présenté comme étant une initiative libérale, ce qu'elle semble être jusqu'ici? Est-ce qu'il y aurait eu la même attention médiatique s'il n'y aurait pas oublié, entre guillemets, de mentionner qu'il était proche du Parti libéral? Donc, la réponse, c'est clairement non. La preuve, les jeunes conservateurs ont essayé, il y a quelques mois, l'an dernier, à l'Université Laval, de faire la même chose avec des carrés bleus. D'ailleurs, ce qui me faisait dire qu'Ariel Grenier s'était trompé de couleur. En fait, les carrés pro-hausse, c'est des carrés bleus, bleus conservateurs. Et quand les jeunes conservateurs ont essayé de faire ça à l'Université Laval, ça a été un flop retentissant. Et donc, évidemment, on ne se surprendra pas nécessairement de cette manœuvre comme un visage caché, là, dans le fond, cette espèce de manœuvre...
De manipulation.
Cette manipulation-là, libérale-là, on ne s'en étendra pas parce que, on a vu que jusqu'à maintenant... le Parti libéral était prêt jusqu'à acheter les noms des fédérations étudiantes sur Google pour faire passer leur message, leur propagande pro-hausse. Alors, ce gouvernement-là, visiblement, n'a pas de scrupules et donc peut s'abaisser à faire ce genre de choses-là. Et donc, on vous invite à prendre avec un grain de sel toutes les rumeurs de division du mouvement étudiant, l'intimidation qu'auraient les gens qui sont contre la grève. D'ailleurs, les gens l'ont dit et redit. Ceux qui sont victimes d'intimidation, ce n'est pas que les anti-grèves. D'ailleurs, on va en parler tantôt justement de ce qui s'est passé au Saguenay. C'est aussi les partisans de la grève puis les gens qui sont contre la hausse des hauts frais de scolarité qui sont victimes d'intimidation.
Il y a aussi un étudiant de l'Université Laval, que bon, j'ai oublié le nom, qui a reçu un coup de bâton plein de face parce qu'il a appuyé la grève. Donc.
Oh là là. Puis on va voir qu'au Saguenay, il y a même des gens qui se sont fait battre là, par des individus. Alors, c'est ça. Quand ça brasse, des fois, il y a des têtes brûlées. Puis ça, c'est pas parce que c'est des étudiants particulièrement. Ça pourrait être dans n'importe quel domaine. Alors voilà. On va se réessayer en musique.
Ouais.
Donc, on va se réessayer de faire play sur cet iPod-là. Et donc, c'est quoi la pièce encore, Jenny?
Cry for the Moon du groupe Mental Symphonique l'Irlandais Epica.
Et on va écouter ça à l'antenne de CKIA 88.3. Vous écoutez Voix de fait.
Thank you. constant free shower.
Voix de fait, madame.
Et oui, vous êtes à voix de fait. Et puis, on continue un peu pour parler de la grève étudiante. Et on va se diriger maintenant un peu vers le Saguenay, où se passent des choses absolument fascinantes. Alors, jeudi dernier, il y avait le premier ministre Jean Charest qui était de passage au Holiday Inn de Jonquière pour faire une somptueuse présentation sur le plan Nord. D'ailleurs, si vous êtes allé au carnaval, il y avait un pavillon sur le plan Nord qui apparemment que ça aurait coûté 300 000 piastres, cette affaire-là. Alors, il faut bien que ça serve. Et puis, donc, Jean Charest allait présenter son plan à Jonquière. Et puis, donc, évidemment, grève des étudiants oblige. Les étudiants et étudiantes se sont présentés. Ils ont fait un beau comité d'accueil à Jean Charest. Et ils sont arrivés un peu après que des centaines de locataires de Rio Tinto Alcan avaient eux aussi manifesté. Donc, ils sont arrivés suite aux travailleurs et travailleuses de Rio Tinto Alcan, mais sans se rencontrer. Donc, la moins nombreuse, la manifestation des étudiants qui provenaient surtout du cégep de Chicoutimi et de Lucac fut très bien animée et les slogans étaient scandés de façon très énergique par les personnes présentes. Alors, les gens étaient vraiment choqués. Et visiblement, les étudiants étaient clairement en mode grève générale illimitée. Et après plusieurs dizaines de minutes, bon, on est en grève, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on est en grève? C'est bien beau d'être à l'extérieur d'un hôtel puis d'essayer d'attirer l'attention de Jean Charest par nos cris de colère, mais qu'est-ce qui dérange vraiment, Jeannie?
Quand tu rentres dans l'hôtel?
Quand tu rentres dans l'hôtel. Ce que a tenté de faire les étudiants étudiantes, bon, ils ont eu de la difficulté et finalement, ils ont quand même réussi à trouver une porte qui était ouverte. Ils sont rentrés. Mais ils se sont rapidement fait coincer par les polices et ils se sont fait sortir manu militari. Oh, on est un petit peu triste. Et pendant ce temps-là, le même jour, il y avait une grande manifestation de la classe qui regroupait entre 10 000 et 15 000 étudiants et étudiantes. Puis ça, c'est les chiffres de la police. Alors, probablement que ça doit être beaucoup plus que ça. Et c'est exceptionnel dans dans le mouvement étudiant, qui est la classe là, où réunissent autant de gens dans une manifestation. Alors, ça va très bien de ce côté-là. Sinon, il y a aussi dimanche, le 26 février, donc hier, au Saguenay, il y a eu des... il y a eu un article que nos camarades du collectif Emma Goldman ont rédigé qui titre « Provocation bourgeoise contre le mouvement de grève générale illimitée ». Alors, il s'est passé, c'est comme une série d'événements qui se sont passés de gens qui s'opposent à la grève, qui sont assez graves. Par exemple, le quotidien, le journal Le Quotidien soulignait vendredi dernier une menace de mort qu'aurait reçue une présidente de l'association étudiante du cégep de Jonquière. Une lettre qui était très vulgaire et qui accusait la présidente d'être de l'extrême gauche. Et comme par hasard, un certain animateur de Radio Poubelle de la région s'était acharné à la traiter ainsi, à dire que c'était une présidente d'extrême gauche pendant tout l'automne dernier. Alors, visiblement, les gens qui menacent s'inspirent d'une certaine Radio Poubelle qu'on ne veut pas nommer ici. Sinon, il y a eu aussi un étudiant qui aurait été banni à vie du cégep de Chicoutimi par la direction. Il était allé dans les classes, il a fait une tournée dans les classes pour démystifier la grève. Apparemment que ça serait fait avec l'invitation des enseignants et enseignantes. Et la direction dit qu'elle ne considérait pas que cette personne-là avait la permission du cégep et qu'elle exposait les étudiants et étudiantes à de l'information contre la direction de l'établissement. Alors, banni à vie du cégep pour des raisons essentiellement politiques. Et apparemment que c'est pas la première fois. En 2005, ça avait été la même chose. Il y a des étudiants qui avaient été mis à la porte pour des motifs politiques. Et autre événement dramatique qui est arrivé dans le coin du Saguenay, au cégep de Chicoutimi, il y avait les étudiants et étudiantes avaient fait des grands cubes rouges empilés pour symboliser la lutte en cours des étudiants et étudiantes. Et ils ont été vandalisés dans la nuit de jeudi à vendredi. On a mis un grand rond vert qui aurait été peinturé à la canette. Le vert, évidemment, des gens qui s'opposent à la lutte pour l'accessibilité aux études. Et le lendemain, il y a des gens qui ont continué le travail, ils ont saccagé les boîtes, les cubes en bois. Et puis, ils ont laissé un message sur une feuille verte qui était indiqué « Un message de l'organisation provinciale anti-grève avec une fabuleuse faute d'orthographe. » Et apparemment que le cégep s'en lave les mains. Et encore un autre événement, vous voyez que ça en passe des choses en ce moment-ci au Saguenay. Il y a eu un couple qui, à la sortie d'un bar, aurait été attaqué par 7 provocateurs contre la grève. Ils se sont carrément fait tabasser par 7 personnes. Mais évidemment, la ministre libérale Lynn Beauchamp n'a pas jugé bon de dénoncer ces faits.
Non, elle juge mieux de défendre la pauvre petite Ariel Granier qui s'est traitée d'extraterrestre, mais il y a du monde qui se font tabasser, du monde qui se font péter à gueule, puis une fille qui reçoit des appels de menace. Ça, ça a l'air que c'est pas grave.
Exactement. Peut-être aussi que les gens qui se sont fait tabasser ne se sont pas plaints aux médias, ce que c'est pas privé de faire Ariel Granier. Ça, on sait pas cette histoire-là. Et il y a même sur Facebook, évidemment, la lutte, ça se traduit sur les médias sociaux. Il y a une sorte de sondage qui a été fait d'un groupe Facebook contre la grève générale illimitée à l'UQAC. Et ils ont mis une question. Ils ont dit, advenant le fait qu'il y ait des lignes de piquetage à l'UQAC, allez-vous y entrer pareil? Et dans les choix de réponse, de oui, non, et t'en as une qui c'est « En tuer un pour faire peur aux autres, ensuite tu entres. » Donc, il se trouve peut-être très drôle, mais en réalité, c'est des menaces explicites. Et il y a des gens qui vont dire que les anarchistes sont des gens violents. Pourtant, remarquez ce que le collectif Emma Goldman dit de faire. Il dit de ne pas répondre par la loi du talion, donc œil pour œil, dent pour dent. Ils disent de ne pas répondre à la provocation. Et devant la violence des coupures imposées par le gouvernement et celle des réactionnaires qui tentent d'instaurer un climat de peur dans le puissant mouvement étudiant qui se développe, nous ne pouvons que durcir nos actions contre le gouvernement et perturber la machine à profit. Mm. Alors, c'est ça que le collectif Emma Goldman propose de faire. Durcir la lutte, puis faire des grèves plus fortes. Et sinon, Janie, on se dirige maintenant peut-être un bloc international?
Oui, premièrement, en Algérie, il y a des arrestations de syndicalistes qui se multiplient. C'est un article que j'ai trouvé sur le blog de Labor Start. C'est une organisation qui aide des cas de syndicalistes. Ça arrive souvent que quand tu leur t'abonnes à leur site, tu renvoies, mettons, ils disent « faut aider telle personne à envoyer un message à tel, bon, tel mettons, directeur d'entreprise, tel président, bon, c'est ça. » Donc, ce message qui date du 26 février, c'est hier, ça?
26, oui.
OK, bon. Bon, c'était à 10h hier, ben 10h30, on s'entend, là, c'est l'heure de l'Algérie, là. Plus de 30 syndicalistes du Comité des travailleurs du Présemploi et du Filet social, affiliés au SNAPAP. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est assez long comme acronyme. qui ont été arrêtés. Ils participaient à un sit-in devant les ministères du Travail algérien. Après ces arrestations, les manifestants ont décidé de se déplacer à la maison de la presse Tahar Djaou à Alger pour faire entendre la protestation quant au mépris total des décideurs qui refusent aux jeunes l'accès à un travail permanent et digne. À 14h30, la même organisation syndicale signale l'arrestation du président et du secrétaire général du Conseil national des enseignants contractuels et de 40 enseignants contractuels syndicalistes qui lui sont affiliés. Donc, c'est quand même beaucoup, là, d'arrestations en même temps. Ces interpellations ont lieu devant la présidence où les manifestants protestaient contre le refus de l'intégration des enseignants spécialisés qui exercent cette fonction depuis plus de 5 ans. Puis le SNAPAP condamne ces arrestations arbitraires et demande libération immédiate des manifestants. Donc, il va falloir garder un œil là-dessus, mais ça a l'air que les temps sont durs pour les travailleurs en Algérie, là. Puis on parlait justement de manifestation étudiante dernièrement. Ça, c'est un article de Cyberpresse qui date du 20 février. C'est des incidents ont éclaté lundi à Valence, dans l'est de l'Espagne, où la police est intervenue à coup de matraque lors d'une manifestation de jeunes qui protestaient contre des restrictions budgétaires dans l'éducation. Ça, c'est selon des journalistes qui étaient sur place. Plusieurs personnes ont été interpellées lorsque les policiers ont tenu un émeute. Qu'est-ce qui ont repoussé les manifestants? Parfois, très brutalement, les poursuivant dans les rues voisines. C'est plusieurs centaines de jeunes répondant à des appels lancés sur des réseaux sociaux. On peut soupçonner Facebook et, on peut penser à Twitter et Facebook. S'étaient rassemblés devant l'Institut Luis Vives, un collège de la ville, pour protester contre les problèmes de liquidité qui ont privé de chauffage les dernières semaines plusieurs écoles de la région. Genre, ils allaient à l'école, puis il n'y avait pas de chauffage. Je peux quand même comprendre qu'il y avait un problème, parce que le gouvernement régional n'avait pas réglé les factures auprès des fournisseurs. Les premiers incidents ont éclaté dans l'après-midi entre les manifestants et les policiers qui protégeaient les lieux. Il y a eu des affrontements dans les rues alentours, là. Les policiers ont fait usage de matraques. Certains manifestants étaient plaqués ou traînés au sol. Selon le quotidien El País, la police a fait usage de balles en caoutchouc. Des photos montraient des manifestants visage en visage ensemble. Donc, ils ont dû recevoir des balles en caoutchouc, hein, en pleine face, là. On voit clairement que même sans caoutchouc, ça peut blesser gravement. Les heurts se sont poursuivis une partie de la soirée dans les rues du centre de Valence où étaient poursuivis des dizaines de fourgons de police. Dans cette région-là, dans le fond, la région où Valence est, c'est la région qui est la plus endettée d'Espagne. Puis le chef de la police régionale, Antonio Moreno, a affirmé que la police avait eu recours à une force physique proportionnée. Bon, on s'entend que c'est très rare que les policiers vont se dire « Ouais, là, on a exagéré, tu sais. »
Ben oui.
Puis... Un porte-parole de la police a expliqué que les forces de l'ordre étaient intervenues parce que les manifestants ont une attitude agressive. Mais encore là, rien, on parle pas du comportement des policiers. T'sais, quand tu es rendu tout le monde avec la face en sang, je pense qu'il y a eu un petit problème. Il y a eu des arrestations, nous ne savons pas encore combien, mais les médias chiffraient le nombre de personnes arrêtées entre 14 et 21. De fréquentes manifestations sont organisées depuis quelques semaines à Valence, la région la plus endettée d'Espagne. OK, c'est le nom de la région, je ne savais pas si c'était le nom de la ville, en tout cas. Où les autorités ont annoncé début janvier un plan de rigueur incluant des augmentations d'impôts et des coupes dans les dépenses de santé et dans le secteur de l'éducation pour un montant de plus d'un milliard d'euros. Ça ressemble un peu à la situation qu'on a en Grèce présentement. Mm-hmm, là. Mm-hmm. Ils sont obligés d'instaurer des plans d'austérité, puis la population n'est pas d'accord, puis elle se révolte. Les étudiants ont déjà opposé policiers et jeunes manifestants la semaine dernière dans la ville. Lundi, l'opposition socialiste... Ça, je devais être en retard là, dans les nouvelles. Moi, quand j'ai lu l'opposition socialiste, je pensais que c'était les socialistes qui étaient au pouvoir en Espagne, mais finalement, ça va être là que non. C'est ça, c'est l'opposition socialiste a demandé au ministre espagnol de l'Intérieur, Jorge Fernández Díaz, et au chef de la police d'expliquer devant le Parlement sur ce qu'elle qualifie de répression brutale de ces manifestations. Donc, on écoute la police, ça a l'air que c'est le problème des manifestants, puis là, tu vois du côté de l'opposition, finalement, c'est la police qui aurait exagéré. Donc, C'est ça, il faudra checker ça encore parce que ça brasse pas, t'es pas autant qu'en
en Grèce.
En Grèce, on dirait que là, ça commence en Espagne, là, dans le fond, à se révolter pis tout. Je pense que les taux de chômage est au-dessus de 20%. C'est comme. Ça va pas très, très bien. Puis, ma dernière nouvelle, un dossier un peu plus costaud, c'est un article sur le Global Post qui porte sur l'attaque des pirates d'Anonymous contre un site Nazilix, dans le fond, qui est Nazilix, le 17 le 10, c'est un site d'extrême droite en Allemagne. Ça réfère en fait le contexte de 2000 à 2006, 9 hommes sont morts aux mains d'un tueur en série en Allemagne, un tueur en série néo-nazi. Les préjugés existants sur les... Là, j'ai fait de la traduction tantôt que tu dis quand même turco-allemand. Je sais pas si le terme est correct. En tout cas, la population turquoise, turque en Allemagne n'ont pas cessé d'exister lorsque ces meurtres ont eu lieu. Les policiers, ils étaient vraiment... Ils savaient pas quoi faire. Ils ont vraiment eu un réflexe, en tout cas, je me trouve un peu stupide, c'est qu'ils ont enquêté au sein de la communauté turque-allemande pour trouver un ou des coupables. Mais pourtant, ils n'ont même pas jeté un œil du côté des néo-nazis, même si les rangs de ces extrémistes-là, ils étaient infiltrés par des informateurs. Ils ont déjà des horpions dans ce mouvement-là, puis okay. En fait, comme, ils n'ont pas allumé que... Puis en novembre, ça, je suppose que c'est en novembre 2011, lorsque ça a été démontré que les meurtres étaient liés à des néo-nazis, les autorités ont vraiment été choqués, mais ils ont fini par allumer. Des critiques ont été faites sur le fait que l'Allemagne a longtemps sous-estimé le problème de l'existence de ces groupes néo-nazis. Ils ont sous-estimé, puis... On balayait ça en dessous du tapis, puis ben, c'était pas même affaire ici au Canada, mais au Québec. Là.
Ben, souvent, la police sont prêts de ces groupes-là, fait que c'est ça. Comme ils voient pas.
C'est ça. Ben en fait, les officiers allemands puis les politiciens pendant beaucoup d'années, ils ont parce que là, moi, c'est en anglais, faut que je traduise ça en même temps que je dis. Pendant des années, ils ont agi comme si c'était sous contrôle, alors que c'était clairement pas le cas. Selon Bert Wagner, un officier de police. Qui lui aide des extrémistes de droite dans le fond à réintégrer la société, genre. Et je pense qu'il leur met il leur redonne santé mentale puis ils font une réintégration.
Il leur donne des pilules.
Bah, en tout cas, dans certains cas, ça peut être ça. Là. Il était en conflit avec beaucoup de politiciens là-dessus, puis il a quitté la police en 1991 parce que lui, c'est la façon qu'il voyait que les autorités s'occupaient du problème et qu'il voyait que ça fonctionnait pas, dans le fond. C'est pas en niant le problème ou en balayant ça sur du tapis que tu fais comme... Ben, ça existe pas. Puis souvent, dans ce temps-là, t'attends que... Comme quand il était survenu l'attaque contre les Irassines à Québec, ben, il montre l'autre fois comme... il était né à Québec. Mais oui, t'as bien ça. En tout cas. Puis... Au cours d'une opération Brisberg, que Anonymous ont attaqué un site néo-nazi au courant du mois de mai dernier, les activistes ont lancé une attaque de déni de service. Une attaque de déni de service, c'est dans le fond, c'est plusieurs ordinateurs en même temps qui font un gros paquet de demandes contre un site en même temps. Ça le fait cracher, ça le fait... Il tombe, dans le fond. C'est le même processus que Anonymous avait pris pour attaquer, mettons, le site de la FBI, puis...
Ça.
Suite à la fermeture de Mega Upload. Donc, OK, c'est dans le fond, ils ont lancé des attaques contre des sites néo-nazis pour les faire temporairement fermer. Puis après cette attaque-là, dans le fond, après... OK, c'est beau. Après l'attaque du nouveau site Nazilix, Anonymous, ils ont publié des informations hautement controversées, des informations personnelles d'enfants sur des néo-nazis, incluant des listes courriels de publications d'extrême droite, une liste des donateurs au NPD, National Socialist Party, à ne pas confondre avec le NPD canadien, là, c'est pas la même affaire, c'est le même acronyme, c'est pas toute la même affaire, puis le name de clients de sites néo-nazis en ligne, mettons, ceux qui vendent des vêtements, de la musique, ou des affaires de même. Puis dans le fond, selon une déclaration d'Anonymous, ben, ils ont dit que... ça vient des Anonymous... allemands qui ont fait comme on peut plus tolérer ça, fait qu'on va vraiment, ils ont vraiment fait son action pour que ça
arrête.
C'est ça. Puis là, je suis un peu bizarre avec mes traductions. Ouais, c'est ça, quand apparemment, puis la façon que la police, dans le fond, a fait le lien entre les néo-nazis et les meurtres, c'est qu'après une tentative de vol de banque qui n'a pas fonctionné, il y a deux personnes que je suis incapable, je ne dirai pas les noms, là, j'ai lu puis je serais incapable de prononcer ça. Ils ont été trouvés morts, puis la police pense que c'était un meurtre-suicide. Peut-être qu'il y en a un, en tout cas. Peut-être un pacte de suicide, en tout cas. Puis après ça, il y a un ami commun, dans le fond, puis un membre d'un groupe néo-nazi, National Socialist Underground, NSU, qui est allé. Qui s'est rendu à la police après avoir brûlé ce qui aurait été l'appartement qu'ils auraient partagé ensemble, dans le fond. Elle puis les deux personnes qui sont décédées. Puis là, dans cet appartement-là, la police a trouvé un DVD dans lequel des membres du National Socialist Underground qui vantaient des 9 meurtres, dans le fond.
Okay.
Ils ont appelé ça Terminator 9 Turk Shot. Turk Shot, non, c'est ça. Ben, tournée allemande, 9 Turcs tués. Là.
Okay.
Mais pourtant, il y a une des victimes qui était grecque. Puis, en réponse à ces révélations-là, ben, il s'est avéré que. Il y a eu des politiciens qui ont demandé à bannir le MPD, dans le fond. Parce que des membres du MPD qui sont suspectés d'avoir aidé le National Socialist Underground. Puis en plus, ça, j'ai trouvé ça dans l'article en faisant ma traduction tantôt, ma partie de traduction. Il y a un membre, Raph Wellbeam, en tout cas, je ne parle vraiment pas allemand, un membre en règle du parti du MPD qui a été récemment arrêté sur des soupçons de 9 meurtres. En tout cas, ça pourrait peut-être qu'il y a des liens entre un membre du MPD et les 9 meurtres de personnes immigrantes. Donc, ça, je pense que ça va être à. Puis dans le fond, il y a du monde qui veulent pas. Il y a du monde qui pense que ce serait pas une bonne idée de bannir le MPD parce que ça rentrerait les. Ça ferait en sorte que les néo-nazis seraient en underground. Mm-hmm. Ce serait comme vraiment caché, ce qui est vraiment le cas au Québec. Là. On sait des affaires sur eux, mais on sait pas tout, dans le fond. Puis c'est plus facile, dans le fond, de garder à vue puis d'avoir un contrôle sur eux s'ils sont dans la légalité, parce que s'ils s'en vont dans l'illégalité, ben ils peuvent devenir plus dangereux.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ce qui n'est pas vraiment le cas, là. Parce que en Angleterre, t'as le National Front, qui je pense qu'est quand même la gang la moins dangereuse, je peux me tromper, mais en contrepartie de Blood and Honor, puis Combat Tué, qui est une organisation terroriste. C'est ça, c'est l'underground, mais ça, c'est beaucoup plus dangereux, je pense,
mm-hmm.
que la gang du National Front. Puis après l'attaque, je vais terminer avec ça, puis après l'attaque de Anonymous, dans le fond, dans le fond, le site a juste réapparu sur différentes adresses web. Là, fait que le site n'est pas tant mort que ça, mais ça montre quand même qu'il y a du monde en Allemagne qui était juste vraiment écœuré, puis qu'on a juste décidé d'agir. Puis au lieu d'y aller selon la bonne vieille technique du pétage de gueule, ils ont décidé d'y aller selon le pétage de cet Internet. Fait que c'est ça, il va falloir garder ça à vue. Puis j'espère aussi que les pirates d'Anonymous vont continuer d'attaquer l'extrême droite, là. C'est beau, je veux dire, d'attaquer le FBI, d'attaquer la CIA, d'attaquer tout ce monde-là, mais je pense que c'est une bonne affaire, dans le fond, d'attaquer les néo-nazis. Donc, je les encourage fortement à continuer.
Oui, puis Anonymous, j'imagine qu'il y en a plusieurs aussi qui sont anarchistes, là. Mais en tout cas, s'il y en a qui écoutent en ce moment, on en connaît des sites d'extrême droite que ça serait le fun que vous fermiez. OK, ben c'est ça fait le tour.
Oui.
Donc, on va aller écouter une pièce musicale. Alors, on fait vraiment... on passe d'un extrême à l'autre. On est l'extrême gauche, nous autres. Alors, on aime ça, les extrêmes. On va aller écouter une pièce d'un chanteur country de l'Abitibi qui s'appelle Ariel V. Benoît. Et en l'honneur d'Ariel Grenier, on va écouter une pièce qui s'appelle « Rapporteur officiel ». Vous êtes à Voix de fait.
Dans tout ce qui peut s'appeler business, bureau, compagnie, on décèle une bande d'hypocrites vendus dont on se méfie. Une gang de sales individus, rapporteurs officiels, font toujours tout ce qu'on lui dit, en vrai petit chien fidèle. Souriant, s'il sourit, rien fort, s'il rit fort, à ajouta tout ce qu'il dit, c'est vrai, mais d'accord, s'amuse tant s'il s'amuse, s'attriste tant s'il s'attriste, il tape en ses épaules, jura que c'est lui le meilleur, il tape en ses épaules, jura que c'est lui le meilleur. C'est habituellement formé de gens que l'on connaît bien, les innocents qui surquestionnent, pensant qu'on n'en sait rien, ceux qui vont visiter le patron parce que ça fait pas tort, niaisant le veiller dans le salon, assis devant son bar, souriant si sourit, rien fort si rit fort, ajoutant tout ce qu'il dit, c'est vrai, je suis d'accord, s'amusant si s'amuse, s'attristant si s'attriste, il tape en ses épaules, jura que c'est lui le meilleur, il tape en ses épaules, jura que c'est lui le meilleur. On les voit dans les assemblées, employés réunis, dans toutes les parties dans l'année, où il y a le patron qui suit. On envoie régulièrement à taverne le vendredi, lui racontant tout sur la semaine, payant pour tout ce qu'il a pris. Souriant, si sourit, rien fort, si rit fort, ajoutant tout ce qu'il dit, c'est vrai, je suis pas d'accord, s'amusant si s'amuse, s'attristant si s'attriste, il tape en ses épaules, jurant que c'est lui le meilleur, il tape en ses épaules, jurant que c'est lui le meilleur. C'est malheureux, je suis bien d'accord, seulement on peut rien faire, à part bien sûr y mettre quelque part notre pied quand ça se présente, botté comme faux cette gang de sales, rapporteur officiel, cette gang de vendu naturel, de pire encore que l'autre. Souriant si sourit, rien fort si rit fort, ajoute à tout ce qu'il dit, c'est vrai, je suis pas d'accord, s'amusant si s'amuse, s'attristant si s'attriste, il tape en ses épaules, jura que c'est lui le meilleur, il tape en ses épaules, jura que c'est lui le meilleur, il tape en ses épaules, jura que c'est lui le meilleur, il tape en ses épaules, jura que c'est lui le meilleur, il tape en ses épaules, jura que c'est lui le meilleur.
Alors, on va continuer sur le sujet de la grève étudiante. Il y a un groupe qui s'appelle Regard Public qui a fait une analyse de la couverture médiatique de la grève étudiante. Et de façon surprenante, il semble que la couverture médiatique soit très favorable. Ça, on aurait cru le contraire. Donc, ils ont étudié 2 semaines, donc la période qui s'étire entre le 13 février et le 24. Et ils ont recensé 74 articles d'information. Donc, visiblement, ils n'ont pas touché à la télé et à la radio. Alors, ça exclut quand même pas mal de bullshit. Et donc, ça inclut les journaux nationaux et locaux. Et donc, ils ont étudié ça. Ils ont vu que la majorité des articles, donc 36% d'entre eux, traitent des votes concernant le déclenchement de la grève de façon positive. Et ils montrent l'effet boule de neige du mouvement. Donc, le fait que ça augmente de jour en jour. Et sinon, il y a aussi les actions du blocage du Centre de commerce mondial, donc qui n'était pas une action seulement étudiante, mais aussi qui incluait tous les groupes sociaux, le groupe de femmes, syndicats. Et il y a aussi l'occupation, évidemment, du cégep du Vieux-Montréal, qui est tombé un peu, qui a eu des ennuis. Ça a été traité de façon plus négative. Et sinon, si on regarde le portrait, l'indice de favorabilité, ça serait de 88%. Donc, il y a un traitement négatif à 12,3%, mais et neutre à 52,1%. Et sinon, le positif, c'est 35,6%. Donc,
petit problème technique présentement.
Allô? Allô? OK. Donc, on écoute CKRL en ce moment dans nos oreilles. OK. Je pense qu'on va faire
on a des problèmes techniques présentement. Là, je rappelle, c'est de la radio communautaire. Donc,
OK, CKRL vient de prendre la tâche de nos ondes. Sinon, ben, pour poursuivre sur le traitement médiatique de la grève étudiante, la journée la plus difficile pour l'image du mouvement étudiant est celle du 23 février. Donc, si les articles concernent l'intimidation dont a été victime Ariel Grenier, évidemment, ça a fait beaucoup jaser et ça a occasionné une couverture plutôt médiocre et négative des grévistes. Sinon, si on regarde le traitement des différents intervenants du mouvement étudiant, c'est la classe qui est l'organisation la plus citée dans tous les articles jusqu'à maintenant. Et il y a un écart important entre la classe et les fédérations. Puis c'est curieux parce que d'habitude, on entend justement plus souvent parler les fédérations étudiantes, mais dans ce cas-ci, là, la classe prend de l'importance. Et même que la perception que les gens ont de la classe est assez favorable. On parle de 91% par rapport à 95% pour les fédérations. Et si on regarde les chiffres, là, il y a, par exemple, la classe, si on regarde l'indice de... eux autres, ils appellent ça l'indice de favorabilité. Donc, c'est la façon que les différents groupes sont cités favorablement. La classe, c'est 40,5% de favorabilité. Et en second, c'est les fédérations étudiantes à 26,2%. Donc, il y a une grosse différence. La classe qui se démarque vraiment là, dans le traitement médiatique. Et dans les deux premières semaines de grève, le mouvement a vraiment réussi à s'imposer dans le paysage médiatique, beaucoup plus que le gouvernement. Le gouvernement qui a vraiment, là, il n'a pas du tout réussi à imposer son message. Et la classe semble être désormais l'organisation la plus citée dans les médias. Et ce qui semble s'expliquer en partie par le fait que durant la période analysée, donc entre le 13 et le 24 février, la grande majorité des associations étudiantes en grève étaient membres de cette association-là. Donc, évidemment, tous ceux qui sont en grève, c'est des membres de la classe. La classe qui est la coalition...
large de l'AC.
C'est ça, de l'AC, Association pour une solidarité syndicale étudiante, étudiant-étudiante. Sinon, ben, à Québec, il va se passer des choses bientôt. Donc, jeudi, le 1er mars prochain, soyons soldats de la grève étudiante. Il va y avoir une manifestation. Manifestation qui est appelée par la classe, encore une fois. Actuellement, il y a combien d'étudiants et étudiantes qui sont en grève? On ne sait pas. En tout cas, il y en a plus que 50 000, ça c'est garanti. La prochaine manifestation nationale, c'est à Québec. Et on vous invite évidemment à y participer jeudi 1er mars, que vous soyez étudiant ou étudiante ou non. Il y a une partie des mouvements sociaux qui vont se joindre à la manifestation. Le lieu de rassemblement est au centre Lucien Borne à 1h30. Et puis on va regarder la manif passer, puis on va se joindre à la manifestation étudiante en fin de course, en fin de parcours. À la fin de la manif. Et c'est une invitation de la coalition régionale opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, dont le collectif anarchiste L'Atelier est membre. Et voilà, donc c'est le moment de sortir, c'est le moment d'appuyer les étudiants. Étudiantes, soyons solidaires. Jeudi 1er mars, 13h30, au centre Lucien Borne. Sinon, ben, on va écouter une dernière pièce, après ça, on va se quitter très bientôt, dans 10 minutes.
Yep. Alors, la chanson, c'est une chanson de Megadeth, la chanson, c'est Millennium of the Blind, tirée de leur dernier album, 30.
Oh, won't need them anymore. When your mind is ours to do with what we please, everything you owe and everything you need, sacrifice your leaders, like it or not, or else you're going down with the ship, death on the rock.
Capitaine Gingras de la Patrouille 86, c'est que j'aimerais ça que vous nous prépariez deux cafés.
OK, c'est deux grands?
Oui, deux grands.
OK, un le sec, l'autre c'est un sec. OK, oui.
OK, merci beaucoup.
Au revoir.
Bonsoir. C'est 4.
Vous écoutez Voix de Fée!
Et oui, c'est déjà la fin de l'émission Voix de Fée à l'antenne de Sequoia 88.3. Et on vous invite à aller sur le blog de l'émission Voix de fait avec un X et un S, .blogspot.com. Sinon, ben, on se dit à la semaine prochaine. Alors, vous étiez en compagnie de...
Janie.
Et de François. Et on se laisse avec une pièce des Ogues de Barbac. La pièce s'intitule « Touche pas à mon école ». Et vous étiez...
Il est midi, c'est l'heure d'une casse-croûte. J'ai une envie irrésistible de manger des araignées, des puces, des poules bien épicées. C'est une horde de scarabées avec du beurre, enfin bref, des horreurs.
Mais si continue à toucher à mon école, le président à la casserole.
Petite sœur, il est quelle heure, dis-le-moi vite.
Il est midi, allume le feu sous la marmite. J'ai cuisiné un fricassé de bras cassés, doré à souhait, un tas de trucs dégoulinants, très délicats à digérer, des asticots, des ragluants, des gros gugus, un peu crâne, grouillant, bouillant, enfin bref, dégoûtant.
Mais s'il continue à toucher à mon école, le président à la casserole. Mais s'il continue à toucher à mon école,
j'ai le ventre qui m'appelle.